Chapitre 13e. Le savant Monsieur Delphin. Philippe donc fut ramassé par le roi des détectives et par Prosper qui ne se tenait pas de joie. Ils le transportèrent dans un fourré, l'étendirent sur l'herbe et commencèrent à lui donner les premiers soins que réclamait son état. Julot s'était éclipsé. Quelque temps après, il revenait avec une voiture et une boîte de secours. Philippe, qui toutefois n'avait pas encore repris connaissance, fut un peu mieux soigné. Martin Numa lui appliqua là un premier pansement sommaire, sans conteste, mais suffisant pour permettre d'atteindre Paris, où le blessé recevrait le traitement nécessaire du bon docteur Gouget. Quand Philippe revint à lui, il aperçut devant son lit Martin Numa et son ami Prosper. Son premier mot fut pour son chef. « Pardon, dit-il, d'avoir agi sans votre ordre. » Martin Numa lui serra la main. « J'étais au courant de tout, mon ami, lui répondit-il. Je vous suivais. La meilleure preuve, c'est que vous voilà. Guérissez-vous promptement, j'ai besoin de vous. » Mais l'absence d'un de ses lieutenants, quoique le privant d'un précieux concours, ne devait pas arrêter Martin Numa dans ses opérations. Il laissa s'écouler quelques jours qu'il employa à tâter le terrain, à étudier les nouveaux ennemis qu'il aurait à combattre, à essayer de deviner quelle serait la tactique que désormais on emploierait contre lui. Puis il voulait aussi donner un peu de repos à ses hommes, mais pour plus de tranquillité, pour éviter de nouveaux ennuis à ses aimables hôtes, et surtout pour dépister les terribles reporters pour qui rien n'est sacré et qui eussent fini par reconnaître Martin Numa, il se décida à ne plus habiter la villa dans laquelle nous recevions une si cordiale hospitalité. Mais il n'alla pas très loin. À 200 ou 300 mètres de là, par le plus heureux hasard, ce hasard sur lequel Martin Numa ne voulait jamais compter, il se trouva qu'une villa, par suite de je ne sais plus quels événements, était libre de ses locataires. Je crois que ceux qui l'habitaient, de bons et paisibles bourgeois, ayant un commerce à Paris, dans lequel ils avaient fait fortune, effrayés par le cambriolage de la villa de nos amis, si proche de la leur, prirent peur et quittèrent le pays. Ils louèrent la villa où ils faisaient leur apparition le samedi soir, pour ne s'en aller que le lundi afin d'être à Paris pour l'ouverture de leur magasin. Martin Numa se félicita de cela. 2 ou 3 jours après le départ de ces pusillanimes parisiens, un bon et brave locataire se présentait et prenait possession de la villa abandonnée. Ce n'était plus un bourgeois, c'était un savant, un herboriste de première classe, comme tout herboriste qui se respecte. Au fait, il n'y a probablement qu'une catégorie d'herboristes, la première. Monsieur Delphin, herboriste de première classe, est par-dessus le marché entomologiste distingué. Les entomologistes partagent avec les numismates ce privilège d'être toujours distingués. Ce monsieur Delphin était un grand bonhomme avec de longues jambes. Il était coiffé d'un large chapeau en feutre blanc, vêtu d'une longue blouse en drap léger gris qui descendait jusqu'au talon et formait en même temps redingote. Blouse, redingote, portant des poches larges et profondes, dans lesquelles s'entassaient les simples cueillis un peu partout dans la forêt, sur le bord de l'eau. L'herboriste, sans cesse, en campagne, revenait avec un chargement d'herbe qui lui donnait l'aspect d'une voiture amenant du foin à emplir une grange. En outre, il portait en bandoulière, d'un côté une sorte de besace dans laquelle il mettait son déjeuner avec ses instruments de recherche, ses ciseaux, son marteau, ses bouchons où il piquait les insectes, ses flacons où il enfermait les cafards et autres charmantes petites créatures du bon Dieu qu'il trouvait au cours de ses longues excursions. De l'autre côté, une boîte en fer blanc, attachée à son dos un filet à papillons. Monsieur Delphin, très myope, portait d'énormes lunettes et une loupe, large comme une soucoupe, pendait à un cordon sur son gilet. Avec cet équipement, de gros souliers, des guêtres en cuir et une grosse canne ferrée, dont la poignée formait pic d'une branche, hachette de l'autre. Monsieur Delphin était accompagné assez souvent d'un aide préparateur ou d'un élève. Chez lui, dans la villa, une bonne grosse commère vaquait aux soins du ménage et préparait le dîner, que le savant herboriste avalait le soir au retour de ses promenades avant d'aller se coucher et rêver non aux papillons bleus, mais aux 1000 insectes et bestioles fantastiques qui eussent à tout autre donné le cauchemar. La récolte semblait bonne cette année. Monsieur Delphin rentrait tous les soirs chargé d'herbes. Il avait sa boîte, son bissac, plein de précieux animaux. Et même à son chapeau, il portait épinglé les papillons dont il craignait d'atténuer les couleurs par un froissement dans une boîte. Or, voici qu'un jour, au cours de ses pérégrinations à travers la forêt, il fit la rencontre d'un grand garçon à la tête de pitre forain, les yeux vagues, clignotants, aux cils rouges. Avec une voix éraillée, un accent canaille, ce garçon lui dit « Ça marche-t-il, la moisson ?» fit M. Delphin. « Vous ne connaissez pas bien les endroits où il y a des plantes ?»«
Si, mon ami, si. »«
Vous venez souvent dans la forêt ?»«
Voilà plusieurs années que j'y fais des recherches, mais pas régulièrement,
à de longs intervalles. »«
Ah, c'est ça.
Vous y venez souvent, vous ?»«
J'ai été élevé. Pour ainsi dire, j'y suis né. »«
Oh, c'est charmant.
Vous êtes aussi herboriste ?»«
Oh, nullement.
Entomologiste ?
Pas davantage. »«
Ah, vous vous intéressez alors aux plantes agricoles ?»«
Oui, aux plantes, c'est-à-dire aux champignons. »«
Oh, les champignons. » C'est une branche très captivante,
si toutefois on peut dire branche en parlant des champignons.
Une branche de l'arbre de la science.
C'est cela, oui, c'est cela.
Les cryptogames.
Quelle merveille, quelle richesse, quelle surprise, les cryptogames. L'herboriste de première classe soupira.
Ah, si j'avais le temps, voilà ce que j'aurais aimé étudier.
Je suis sûr qu'on doit faire encore dans les cryptogames des découvertes qui rendraient un homme immortel.
Assurément.
Ah, vous êtes jeune. Vous devriez vous attacher aux cryptogames. Étudiez en outre les mousses.
Et les lichens, mon ami, les lichens.
Mais c'est toute la vie d'un homme. On ne connaît rien ou si peu de choses sur les lichens. Voilà une belle carrière qui s'ouvre devant vous.
Le grand garçon au visage rouge répondit.
Hélas, monsieur, c'eût été mon plus grand désir. Mais comme vous, je suis tenu par les exigences de la vie.
Étudier les lichens, quel bonheur.
Mais il faut penser à la côtelette quotidienne.
Et je suis artiste, ah, la côtelette, par ce temps de vie chère, quel problème !»
Il soupira, puis il reprit. « Seulement, je viens me reposer ici de mes travaux. Je suis à Bois-le-Roi avec des camarades et chacun apportant son écho. Moi, je vais chercher des coulemelles dans la forêt. Je connais tous les endroits où il y en a. »«
Des coulemelles ?»
fit l'herboriste de première classe. « Des coulemelles. C'est un champignon en ombrelle, eau sur tige, parfum exquis. C'est délicieux. » Et voilà comment je m'occupe des cryptogames, non pas au point de vue scientifique, mais seulement gastronomique.
C'est un tout autre point de vue, en effet.
Seulement, j'ai pensé que, connaissant certainement mieux la forêt que vous, je pouvais vous être utile. L'entomologiste distingué regarda à travers les gros verres de ses lunettes le garçon qui lui faisait ses offres de service. Cette amabilité lui parut sans doute charmante autant que rare. Il s'empressa d'accepter et remercia son bénévole cicérone. Delphin et l'amateur de champignons se retrouvèrent plusieurs fois au rendez-vous qu'ils se donnaient dans la forêt. Ils finirent par devenir très bons amis. Le singulier amateur de coulemelles avait un aspect canaille de type parisien, qui semblait un peu effarouché ce bon monsieur Delphin, mais qui l'amusait quand même beaucoup. À vrai dire, les récoltes de simples et les chasses aux insectes n'étaient pas aussi merveilleuses que le cicérone le prétendait. La collection de monsieur Delphin, depuis cette rencontre, ne s'enrichissait pas énormément. Jusqu'à présent, il n'avait pas encore découvert la plante unique, l'insecte rare. Mais c'était chaque fois une journée agréable. Depuis longtemps, le cicérone avait parlé à M. Delphin d'une promenade à faire soit au rocher Canon, soit au rocher Caspeau, soit aux célèbres gorges de Franchard. « Il y a, dit-il en revenant sur cette question, il y a certainement à la mare aux biches des insectes que vous ne trouverez nulle part en France.
« Vraiment ? S'écria l'entomologiste distingué.
« Vraiment ?
Il paraît, moi je ne m'y connais pas, mais j'ai souvent entendu vanter cet endroit par des gens qui venaient chercher des insectes.
Et j'ai assisté à des chasses à cour aux papillons qui ne manquaient pas de pittoresques.
Enfin, il aiguisa tellement l'envie du savant que celui-ci ne put refuser d'aller faire une excursion d'études à la fameuse mare aux biches si peuplée.
Jour fut pris. Le jeune artiste poussa l'amabilité jusqu'à venir à la villa du savant pour le prendre. Le savant avait dit en effet que, contre son attente, un de ses élèves qui devait venir se trouvait retenu ce jour-là. Ils ne seraient donc que tous deux. Les voilà en chemin. Il fallait bien une bonne heure de marche pour arriver aux premières roches qui précèdent le plateau sur lequel se trouve la mare aux biches. Le savant allait de son pas sec, nerveux, paraissant ne pas sentir la longueur du chemin, la fatigue de la route. Le champignoniste allait, venait, tantôt précédant, tantôt suivant son compagnon. Il s'écartait du chemin, courait ci et là, arrachait une plante, dénichait un champignon, grattait au bord d'un rocher un lichen, une mousse, cherchait d'un coup de casquette à atteindre un insecte ou un papillon. « Je suis sûr, dit-il au savant, que vous allez trouver dans la mare aux biches des insectes extrêmement rares.
Vous croyez ?
Oui, des insectes étonnants.
Comment cela ?
La mare, quelquefois, pendant les années de sécheresse, reste de longs mois sans une goutte d'eau. »
Le savant se mit à rire.
« Comment font les biches pour boire ? Demanda-t-il. « Si elles n'ont pas d'eau à leur mare, « elles vont au café, sans doute ?»«
Probablement, dit l'amateur de champignons à haute tige,
mais dans cette mare qui reste sans eau pendant si longtemps, par conséquent absolument à sec,
Voilà ce qui étonne tout le monde. Dans cette mare, dès que l'eau commence à se montrer, apparaissent en quantité les insectes d'eau.
Oh !
Oui, oui, c'est justement ce qu'on trouve d'admirable, car enfin, tous ces animaux ont dû périr pendant les longs mois de sécheresse, et les voilà qui reviennent, plus nombreux, plus jolis.
Ah !
Dit le savant, cela donnerait un nouvel appui à l'opinion discutable de la génération spontanée. Les animaux apparaissent quand le milieu dans lequel ils doivent vivre est constitué. Cela doit être. Est-ce l'explication qu'on peut trouver à ce phénomène ? Vraiment, mon ami, il me tarde de tenir un de ces animaux pour en étudier la structure. Nous arriverons bientôt. Encore quelques minutes, une demi-heure tout au plus. Une demi-heure de forêt, de montagne ou de plaine ? De rochers, tout bonnement. En effet, maintenant, il fallait grimper des rochers. L'administration, ou plutôt l'initiative privée, a repéré la forêt. De temps en temps, on trouve sur ces rochers des lignes, des traits bleus qui indiquent les chemins, vous ramènent et vous empêchent de vous égarer dans cette immensité. Jusqu'ici, les deux excursionnistes avaient suivi les indications. Mais depuis un moment, le champignoniste semblait s'éloigner du chemin officiel. « Est-ce que nous ne nous égarons pas ?» demanda le savant. « Non, monsieur, je connais la forêt comme ma poche. » On commença bientôt une escalade de gros rochers. Maintenant, le savant tirait la jambe, soufflait, semblait avoir peine à traîner son long corps. D'autant plus qu'ayant vu partir quelques papillons et voleter autour d'eux des insectes que ses lunettes de myope ne lui permettaient pas de vérifier, il tenait son filet à papillons d'une main et son piolet de l'autre. Cela doublait sa gêne. Il marchait difficilement, péniblement, butait. « Si vous me donniez votre piolet ?» lui demanda le cicérone. « Mais il m'aide à monter. »« Il vous gêne plutôt ?»«
Non. »«
Alors votre filet à papillons ?»« Je puis en avoir besoin à chaque instant. » Un imprévu qu'il ne faut pas manquer, un insecte qui ne se rencontrerait plus. »
Ils marchèrent encore.
« Nous arrivons, » dit le coulmelliste. « Nous y sommes presque. Du courage, alors. » On arriva devant la mare aux biches. Il fallut alors non plus monter, mais sauter de rocher en rocher. Entre les rochers se trouvait de l'eau. Plus loin, une nappe assez vaste, un petit lac, une mare, vraiment. L'endroit était charmant, délicieux, exquis. Mais le pittoresque s'augmentait de la solitude absolue du silence de la forêt. Ce silence peuplé d'harmonies qui font comprendre le charme, ainsi que l'a si bien dit un poète amoureux, de la forêt. Après la mare, un rideau de vieux arbres. Un gros chêne attirait surtout l'attention, forçait l'admiration. C'était un des doyens de la forêt. Comme tous les beaux arbres, comme les rochers, il porte un nom. C'est le Louis Noir. C'est là que le célèbre romancier Louis Noir, dont les récits ont amusé toute la jeunesse française, éveillé dans les cerveaux la bonne pensée des voyages, assuré dans le cœur la bravoure, donné le goût de l'aventure, de la vaillance, en somme, conservé chez nous ce qui fit nos aïeux si grands, la hardiesse, le courage, la loyauté. C'est là que le bon romancier venait s'asseoir et écrire ses livres. Louis Noir était un amoureux de la forêt de Fontainebleau. Il en connaissait tous les arbres, tous les rochers, et par contre-coup, les animaux de la forêt le connaissaient et aimaient ce brave homme simple et bon. Il s'asseyait sous ce vieux chêne, et pendant qu'il écrivait, les lapins des terriers voisins accouraient et, comme des gamins en vacances, galopaient et faisaient des cabrioles devant lui. Les cerfs qui venaient boire s'approchaient, méfiants. Mais quand ils l'avaient reconnu, ils bramaient, et leurs biches, en se dandinant, faisant les coquettes sur leurs petits pieds, arrivaient sans crainte. Elles souriaient peut-être au bon écrivain, et lui lançaient un regard ami de leurs grands yeux de diamant noir. Et le romancier leur disait bonjour de la main. Même, il arriva que de jeunes femmes vinrent avec l'imprudence de leur âge pour voir de plus près ce bonhomme qui ne faisait pas peur à leurs parents. Ils se laissaient caresser par lui comme par un grand-père. Louis Noir faisait partie de la forêt. C'est de toute justice qu'on ait fixé son souvenir en donnant son nom à cet arbre. Quand je passe encore maintenant devant ce chêne, je tire mon chapeau respectueusement, affectueusement. Il me semble qu'un peu de sa pensée est restée là, où, si longtemps, elle a fleuri. Et je crois même que j'ai entendu un jour une voix rieuse, accueillante et bonne, qui disait, répondant à mon salut, « Bonjour, Courville !» Peut-être est-ce une illusion. Simplement la brise qui passait dans le vieux chêne. Les feuilles de Louis Noir qui parlaient. Revenons à nos héros. Derrière le rideau de vieux arbres se trouve la continuation du ravin que venaient d'abandonner les deux excursionnistes. En arrivant au plateau où se trouve la mare aux biches, le savant poussa un soupir de soulagement. « Enfin nous y voilà !»«
Oui, ça y est !»
Et étendant le bras, « C'est-il beau, hein ?» s'écria le cicérone. « C'est-il beau, ça, voyons. Regrettez-vous d'être venu ?
Je suis enchanté. Je vous remercie. Quand bien même je ne trouverai aucun insecte, je serai content de ma promenade.
Mais il fallait faire grande attention pour marcher sur ces rochers que recouvrait de la mousse glissante. Plusieurs fois, le savant avait failli perdre pied et rouler dans l'eau.
« Maintenant, lui dit le chercheur de champignons, maintenant vous n'avez plus besoin de votre piolet. Il vous gêne, confiez-le-moi. »
Le savant le lui donna.
À ce moment, le jeune artiste se trouvait devant sur les premières pierres de la petite digue qui forme le passage pour aller d'un bord à l'autre de la mare.
« C'est vers le milieu de la mare, avait dit le cicérone, où l'eau est plus profonde que nous trouverons les plus beaux insectes d'eau. »
Il allait devant. M. Delphin le suivait à quelque distance. Il marchait avec précaution, ne mettant un pied qu'après s'être bien assuré qu'il ne glissait pas.
Voici qu'il aperçut, assis derrière un gros rocher qui le masquait, tout à coup, un garde forestier à forte barbiche blanche. Le savant tourna vers ce garde, ses fortes lunettes, et le regarda, semblant très intéressé par ce garde et très surpris en même temps. Il porta la main à son chapeau. Le garde salua militairement, mais sans bouger, sans dire un mot.
« Bonjour, garde, dit alors le savant. Belle journée. »«
Oui, oui, fit le garde.
Croyez-vous que nous aurons des insectes par ici ?
Je ne sais pas.
Ah ? Je ne suis pas chargé des insectes de la forêt. En effet, garde, en effet. Pardon de vous avoir dérangé. »
Le savant s'éloigna. Il essaya, en glissant le moins possible, de joindre son guide. Le coulmaliste, en l'attendant, s'était campé sur un rocher et il sifflait un air de chasse. Puis il dit au savant, « Il y a un écho. »
« Un écho ?»«
Oui. Quand le vent n'est pas fort, ce qui est le plus souvent le cas, il répète assez bien. »
« Voyons. »
Le chercheur de champignons, mettant ses deux mains devant ses lèvres, se mit à crier en modulant sa voix des mots. Mais au lieu d'un écho qui lui renvoyait sa voix, ses paroles, ce fut un autre chant et d'autres mots qui lui arrivèrent. Le cicérone en parut quelque peu surpris.
« Inutile de chercher l'écho, dit-il. Il y a des touristes qui, par le bas, s'amusent à crier. »
Cependant, fit l'entomologiste, il m'a semblé, quand vous siffliez votre air de chasse, entendre répéter cet air.
Ah, vous avez entendu ?
Il m'a semblé.
Je ne pouvais me rendre compte.
Mais n'est-ce pas encore ces plaisantins ridicules qui se moquaient de nous ?
Ici, ma compétence est en défaut, mon ami.
Bon, bon, fit le chercheur de Coulmel. Ne pensons plus à cet incident qui ne peut gâcher notre promenade.
Bien entendu.
L'entomologiste maintenant s'était penché sur la mare. Avec une attention de savant minutieux, il regardait dans l'eau, dans cette fameuse eau qui devait contenir des animaux si bizarres, si extraordinaires. Son compagnon avait fait quelques pas, et voici que le garde, qui s'était montré brusque et de méchante humeur à son tour, s'était engagé sur le rocher et venait du côté du savant. Sur l'autre rive, prêt à passer, se montrèrent également trois ou quatre touristes, ceux qui probablement répondaient aux cris du cicérone et jouaient le rôle de l'écho. Le savant, penché sur l'eau de la mare, accroupi, tassé, tout à ses recherches, ne se doutait en aucune façon de ce qui se passait autour de lui. Il ne voyait pas qu'il allait gêner le passage et que ces gens, gardes et touristes, allaient l'encercler. M. Delphin continua à chercher des scarabées d'eau. Le chercheur de Coulmel, sans doute pour l'avertir, venait à lui. Mais quand il fut à portée, il leva sur lui le piolet. Oui, le piolet, dont une des branches formait pique et l'autre hachette. Il leva le pistolet, et comme s'il allait fendre une bûche, visa la tête du brave homme de savant, d'herboriste de première classe, de distingué entomologiste, et allait lui fendre le crâne. Mais voici que, tout à coup, le savant, absorbé par les insectes d'eau, qui ne se doutait pas que la mort était suspendue sur sa tête, fit seulement un bond de côté au moment où le piolet s'abattait avec force et, rencontrant le rocher, en faisait voler une myriade d'étincelles. Puis se redressant avec une souplesse, une vigueur que rien en lui ne permettait de supposer, il coiffa de son filet à papillon son compagnon, ahuri d'avoir manqué son coup.
« Ha ha !»
fit l'entomologiste distingué.
« Ha ha, oui, il y a ici des animaux bizarres. Voici un bien vilain papillon rouge que je viens de prendre. Je ne vais pas le piquer à mon chapeau, mais je vais lui faire piquer une tête dans la mare. »
Il attira lui le filet à papillon, dont le coulmeliste ne pouvait se défaire.
« À moi » disait-il, « à moi !»
« Oui, l'écho va te répondre, vilain rougeau, mais va donc rejoindre tes scarabées. » Un coup de poing terrible sur le menton du rouquin le fit tournoyer et un coup de pied dans les reins l'envoya comme un paquet au milieu de la mare. Le rouquin, car c'était lui, le rouquin disparut dans la vase. Et M. Delphin, ayant ramassé le piolet abandonné par lui, se tint sur la défensive, prêt à lutter. Le garde s'était arrêté dans sa marche Il avait rebroussé chemin et il se dépêchait de fuir parmi les rochers. Les autres touristes, qui allaient de l'autre rive s'engager sur les gués également, renoncèrent à leur projet et, sans doute, ne voulant pas intervenir dans ce singulier différend, se souvenant que, surtout en forêt, il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce, ils disparurent avec une rapidité merveilleuse. Le garde forestier, lui, courait. « Au revoir, commandant !» lui cria M. Delphin. « Au revoir, à une autre fois !» De tous côtés, des éclats de rire retentirent, que l'écho maintenant rendait en les quintuplant. Des éclats de rire et des cris joyeux. « Vive le chef ! Vive Martin Dumas !»